Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Toujours sur le chemin de Saint-Jacques, notre héros s'enfuit d'une auberge où il pense avoir été reçu par un gourou. Nous sommes toujours en Cantabrie. Je respirais profondément et montais jusqu'aux terrasses de la citadelle. La vertu du grand air et des vieilles pierres est de faire oublier instantanément que peuvent exister des lieux de clôture, de laideur et d'asphyxie. J'avais eu décidément bien raison de m'enfuir. Non pas que le jugement porté à la hâte sur cette auberge eût été forcément juste. D'autres pèlerins, rencontrés plus tard, me confirment même que ce fut une de leurs meilleures haltes. Celui que j'avais pris pour un gourou s'était, paraît-il, révélé un hôte plein d'entrain, régalant ses convives de chansons entonnées en chœur jusque tard dans la soirée. J'ai sans doute perdu quelque chose, mais à mes yeux, j'avais sauvé l'essentiel, la poésie nostalgique de ce lieu de mémoire qui requérait plutôt la solitude que les refrains folkloriques. Cependant, il ne serait pas dit que ma désertion resterait impunie. Je ne retrouvais aucun autre séjour, m'interdisant le confort d'un hôtel et passant, sans me laisser tenter, devant une pension pourtant nommée Galimard. La nuit tombait. Je décidai de planter ma tente un peu au hasard, mais comme nous étions toujours en Cantabrie, ce hasard me proposa comme seul espace disponible le talus herbeux qui surplombait une autoroute. Je sortis mon réchaud et fit cuire sur son petit feu un fricot sans grande qualité, puis je m'endormis sous ma frêle toile, bercée par le bruit des poids lourds. Adieu au rivage. Les meilleurs souvenirs que j'ai gardés de la Cantabrie, je les dois au moment où je me suis égarée. Un jour de pluie, je bifurquais à un croisement de sentiers et me retrouvais perdue en pleine montagne. Là où le chemin ordinaire m'aurait retenu dans la plaine et au bord des routes, je me retrouvais à grimper une côte escarpée au milieu d'épais fourrés que vernissait la pluie. Tout en haut, je débouchais sur une longue crête plantée d'épicéas et d'eucalyptus. Par moments, le vent dégageait les brumes et découvrait la côte, loin en contrebas. La route n'était plus qu'un joli serpent noir qui glissait sur la verdure des prairies, lointaine, silencieuse, enfin. De l'autre côté, vers l'intérieur, les trouées des nuages laissaient émerger par instants de hautes montagnes noires. La proximité des magnifiques picos de Europa se révélait ainsi entre deux bourrasques. Elle me laissait deviner l'existence d'une autre Cantabrie, que j'aimerais découvrir un jour, et que le chemin, hélas, ne montre pas. Je connus ce matin-là le bonheur d'être perdu dans la nature, sans coquille à repérer, sans bruit de camion ni lotissement désert. Je m'orientais comme le font les montagnards, reprenant d'un coup la vision d'ensemble que l'on doit avoir lorsque l'on trace soi-même son itinéraire par monts et par vaux, fier d'avoir ôté de mon cou la laisse asservissante du chemin. Après une longue descente dans les bois, je me retrouvais dans un petit village endormi. La seule animation était un café-tabac-épicerie dans lequel je me séchais et engloutis un copieux sandwich. Une cliente, toute vêtue de noir, ridée et coiffée d'un chignon gris, me demanda si j'étais français. Elle parlait notre langue à la perfection, avec un accent qui mêlait la gouaille parigote et les rugosités espagnoles. Les Batignolles lui manquaient. Pendant les 30 années qu'elle y avait passées, elle n'avait cessé de rêver à son village au pied de la montagne. Et depuis qu'elle y était retournée, le métro, la place Clichy et les bistrots auvergnats hantaient ses nuits. Elle s'emplit auprès de moi d'une bouffée d'air parisien, me fit parler des lieux qu'elle connaissait pour savoir s'ils avaient changé. Je retrouvais l'antique fonction des pèlerins du Moyen-Âge, qui colportaient les nouvelles et reliaient les mondes. Puis, saisissant son cabas que tendaient des miches de pain et des bouteilles de vin rouge, ma parisienne de Cantabrie s'enfuit dans la tempête, serrant dans son cœur les quelques perles de nostalgie qu'elle avait tirées de moi. À mesure que j'approchais des Asturies, le rivage devenait plus escarpé. Il prenait parfois sous l'orage des allures écossaises avec ses rochers noirs et ses prairies d'un vert cru qui surplombaient les gerbes d'écume. C'était comme si la mer, sentant que j'allais bientôt la quitter, faisait étalage de tous ses charmes pour que j'emporte d'elle un bon souvenir. Moi, qui ne lui avais guère prêté attention, tant qu'elle était étale et monotone, je me mis à la contempler avec émotion et à chérir sa présence au point d'établir mes bivouacs dans son voisinage. Je m'offris quelques-unes de mes plus belles nuits sur des promontoires tourmentés, cernés de gerbes d'eau et couronnés de tempêtes. J'eus droit à des crépuscules nimbés de brumes dorées et à des aubes apaisées, violettes comme des lèvres de nouveau-né. Dans mon sommeil toujours léger, se mêlait le jappement des chiens, loin dans les fermes, et le murmure tout proche du ressac qui ourdissait sans relâche son complot millénaire contre les terres. Dans ces dernières étapes côtières, la sauvagerie du rivage exerçait sur moi une telle fascination que je me hâtais de le rejoindre. Je traversais les villes sans prêter attention à leur charme supposé. J'avais mon content d'architecture balnéaire et de restaurants typiques, de conserveries de poissons et de cidreries pittoresques. Le temps de faire tamponner ma crédentiale, d'avaler un menu du jour à 10 euros et même, parfois, un menu anti-crise à 8 voire à 7 euros, et je suivais de nouveau les coquilles pour retrouver le littoral. J'ai toujours entretenu des rapports assez bizarres avec la mer. Au Sénégal, j'étais exaspérée de la découvrir chaque matin sous mes fenêtres, étale, uniformément bleu, griffé de pirogues. Mais quand j'y pense aujourd'hui, je la vois pendant la saison des pluies, l'île de Gorée fouettée par les grains venus de l'océan, la mer froissée par les doigts nerveux du vent, ourlée de fine écume. Et j'éprouve une nostalgie que rien ne console. En Cantabrie, j'ai connu la même alternance de rejet et d'attachement. Je me suis impatientée de devoir subir l'intenable compagnie de cette mer dépourvue de fantaisie et, oserais-je dire, de conversation. Et puis, au moment de la quitter, je me suis attachée à elle au point de souffrir à l'idée d'en être séparée, et cela avant même que le chemin m'ait éloigné d'elle. Les dernières nuits en sa compagnie étaient douloureuses de plaisir. Si je me permets ici une confidence, je dirais que ce paradoxe est celui de toute ma vie. Sans doute ne suis-je pas le seul à goûter les choses et les êtres au moment où ils nous quittent. Mais j'ai poussé plus que d'autres le vice ou la gourmandise jusqu'à m'éloigner souvent de ce que j'ai de plus cher pour en mesurer le prix. Jeu dangereux où l'on peut gagner beaucoup, mais où il y a encore plus à perdre. Avant de quitter la Cantabrie, j'eus à affronter un dernier danger. Au cours d'une étape verdoyante, le chemin emprunte des espaces gazonnés, soigneusement entretenus, que l'on prend d'abord pour un cadeau inattendu de la nature. Assez vite cependant, on comprend que cette nature-là n'est pas naturelle. L'itinéraire traverse un golfe. Des joueurs le parcourent, entraînant des caddies. Le doute s'installe dans l'esprit du marcheur et bientôt un panneau lève toute ambiguïté. « Attention aux balles » est-il écrit. On s'avise alors que l'on marche en plein sur le parcours, sans aucune protection. Compte tenu de la bienveillance des populations locales pour les pèlerins, on se dit alors que certains joueurs peuvent être tentés d'améliorer leur handicap en abattant d'un coup précis un de ces intrus. Je ne retrouvais mon calme qu'en quittant le terrain, ce qui me prit tout de même un bon quart d'heure en courant à toutes jambes. Enfin vint l'heure de la séparation, le moment où le chemin quitte définitivement la côte et s'enfonce dans les terres. Le drame se produit non loin du village de La Isla, qui ne m'a pas laissé un souvenir remarquable. L'éloignement est progressif. on continue d'apercevoir longtemps des bouts de falaises, des morceaux de criques, l'horizon. Puis, tout est fini. La campagne vous environne. Vous êtes dans les Asturies.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.